Bonjour à tous et bienvenue sur Estadia.fr pour notre 32e podcast en direct du festival de Vesoul 2016. Si vous écoutez Estadia et lisez Estadia depuis 5 ans, vous savez que le FICA, c'est le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul. C'est la 22e édition qui se tient cette année et c'est la 5e édition qu'Estadia est présente. Mais par contre, Elias, c'est ta première édition. Bonjour,
oui.
Elias.
Hein. Bonjour.
Alors, je vais commencer par une petite question liminaire. Comment as-tu ressenti les 24 premières heures passées à Vesoul?
Alors, au niveau de tout ce qui est l'ambiance ou au niveau simplement de la production cinématographique?
Comment tu ressens le festival au niveau de l'ambiance, la manière dont ça t'est apparu en arrivant? Les quelques films que tu as pu voir déjà, dont on va reparler forcément longuement.
Ce que je remarque, c'est pour avoir fait déjà quelques festivals à Paris, enfin pas de festival, c'est un premier festival où je pars dans une ville différente pour le faire, pour le couvrir. Donc il y a une ambiance que je trouve qui est très familiale, qui est, dès le début on a été très bien accueillis et très bien préparés pour les films qu'on va voir. Et donc je trouve qu'il y a un travail d'accueil et d'organisation qui est assez intéressant et qui est assez important pour pouvoir réussir à quand même faire venir des gens d'un peu partout. Donc il y a des gens qui viennent de Corée ou de Thaïlande, et donc je trouve que à ce niveau-là, et on arrive pourtant à se retrouver en faible nombre et à réussir à faire comme ils aiment bien dire, à faire une famille avec faire l'amitié, etc. Et j'ai trouvé ça assez sympa.
Jérémy, qui rigole à côté, est-ce que tu as l'impression de faire partie de cette famille de Vesoul au bout de ton... C'est combien de festivals que tu fais?
C'est le 4e, je crois, maintenant.
Alors, comment t'as trouvé cette première journée et la soirée d'ouverture?
C'est toujours aussi, c'est toujours assez agréable de revenir, en fait. Dès qu'on arrive, on retrouve un peu nos petites marques, nos petites habitudes. Le Formule 1.
Nous sommes actuellement. On va situer un peu. On est le jeudi 4 février, il est 23h37 et nous enregistrons donc en direct, sans coupe, ce podcast exceptionnel du Formule 1 de Vesoul.
Et donc on est bien, quoi, je trouve. On est content de revenir. Là, il y a Bastien qui va de salle en salle, il y a les Terouanes aussi qui sont toujours aussi enthousiastes. On attend les soirées aussi on attend les soirées avec impatience, et puis
on vous en parle demain.
Et je suis content de revenir, et c'est toujours aussi cool, en fait.
Et enfin, avec moi, il y a Nicolas. Salut, Nicolas.
Salut.
Alors, tes impressions sur le début du festival?
Non, mais c'était bien. La dernière fois, l'année dernière, on est arrivé un peu en retard, donc on n'avait pas pu profiter de tout l'avant festival. Mais là, cette fois, on est arrivé à l'heure, donc c'était cool. On a pu manger chez les Terouanes, c'était très bon. Puis après, on a pu aller à la soirée d'ouverture tranquillement. C'était bien.
C'était bien, et c'était hier, car aujourd'hui, nous sommes sortis à 22h46, et nous n'avons pas pu manger, car à partir de 22h45, tout est fermé à Vesoul. Il faut le savoir aussi, ça fait partie de la vie de festival. Mais néanmoins, nous sommes sortis assez contents, puisque nous avons découvert aujourd'hui le premier film de la compétition officielle, Visage des cinémas d'Asie contemporain. C'est le nom de la sélection de Vesoul. Juste avant de parler du film, on va d'abord en priorité dans ces podcasts, donc il y en aura un par soir de nos présences, un bilan dans le prochain podcast, donc qui sera enregistré à la fin du mois. Et dans ces podcasts, on va privilégier les films en compétition officielle dans un premier temps, et parler ensuite de nos coups de cœur dans les différentes sélections qui sont assez importantes. Ce soir, on va surtout parler donc de Tarlo, qui est le premier film qu'on a découvert en compétition, et présenter les différentes sélections qu'il y a dans le festival, notamment les maîtres oubliés du cinéma thaïlandais, dont on a déjà vu 3 films, et pour un spécial Corée, les rapports entre littérature et cinéma, dont on a vu aussi 2 films. Oui, on a vu beaucoup de films aujourd'hui. Et donc nous sortons de Tarlo, qui est un film chinois-tibétain, de Pema Tsenden. Qui veut en parler pour résumer un peu le contexte, l'histoire de ce film?
Alors, Tarlo raconte le parcours de Tarlo, qui est un berger qui travaille assez solitaire dans les montagnes tibétaines, et on le voit dans sa descente en ville, en fait. Et il doit faire une carte d'identité parce que c'est nécessaire dans la vie de tous les jours. moderne. Et donc, lui est assez enfermé, n'a pas besoin de ce genre de choses. Finalement, il va se trouver obligé de la faire et donc va devoir prendre une photo. Donc, il va en ville et de fil en aiguille, il va faire la connaissance d'une coiffeuse dont il va tomber amoureux. Et voilà. Et ça commence comme ça. Et donc, c'est une assez bonne surprise. C'est le premier film en compétition qu'on voit cette année. Et je dois dire que c'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment très bien en fait. Déjà, au niveau esthétique, c'est magnifique dans un super noir et blanc. Un super noir et blanc. La gestion de la lumière, la photo, magnifique. Et donc, il y a dans ce film une angoisse que j'ai ressentie en fait pendant tout le film, une angoisse du temps présent en Chine ou au Tibet. Et un vent du changement qui vient encore, qui vient de l'Ouest, on a l'impression, où les gens se plient à un mode de vie qui n'était pas forcément le leur il y a plusieurs années. Et donc Tarlo, et c'est un peu ce personnage qui est en marge de la société, comme on avait vu ce matin dans un film thaïlandais, et qui par la force des choses, ou plutôt par naïveté, par amour, va se finalement se petit à petit se transformer en quelqu'un qui n'est pas. C'est quelqu'un de très consciencieux qui fait son travail, et petit à petit on le voit perdre pied. Il change ses habitudes, il change de marque de cigarette, par exemple, des petits détails comme ça qui change. Et ce changement est assez passionnant à suivre. Et ce personnage qui devient le symbole de tout un pays. Et ouais, je trouvais ça assez fascinant en fait, de bout en bout. Voilà.
Faut aussi parler, je pense, de la radicalité esthétique du film, qui est dans un noir et blanc contrasté, qui est très prononcé et qui vraiment agrippe comme ça le spectateur au début. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on n'est pas, c'est ce qu'on disait juste avant de parler du film, on n'est pas du tout dans le cinéma exotique qu'on trouve enfin, voilà, en marge du cinéma chinois, cinéma d'auteur qui peut nous venir de Mongolie avec des animaux de différentes couleurs. Ou
Les bruits de
justement
cloche.
qui ont des bruits de cloche, ou un certain cinéma voilà tibétain avec des moutons et autres animaux. Moi je trouvais qu'on était plus dans une esthétique un peu à la Zhang Miaoyang, hein, qui avait fait Black
Black
Blood,
Blood, ouais, on avait pensé beaucoup. Ouais.
peut-être en moins radical, hein, parce que justement il y a une narration qui est assez évidente dès le départ. Il y a cette histoire qui est très simple, hein, et qui sert vraiment de support aux thématiques du film. Et justement, on est surtout happé par cette esthétique en noir et blanc très forte, et dans laquelle il y a énormément de symbolisme qui passe juste par un sens du cadrage. Souvent, le cadre est coupé en deux avec des éléments au milieu. Il y a des oppositions de miroirs, des oppositions de personnages. Et la transformation du personnage dont tu parles se fait surtout par ce sens du cadrage et par des éléments
Il y a un vrai, il y a un, il y
esthétiques.
a un vrai sens, il y a un vrai sens esthétique, et c'est pas l'illustratif comme tu disais, c'est pas le film de festival qu'on voit tous les jours. Et oui, il y a une radicalité qui est, c'est aussi ça qui marque, parce que c'est très brut, et ça contraste avec ce personnage qu'on voit au début face caméra, et qui a une certaine douceur en fait en lui. Et petit à petit, même au niveau au niveau du cadre, au niveau de son visage et au niveau du cadre, on va voir que ça change au fur et à mesure, et c'est assez passionnant en fait.
C'est ça que je trouve intéressant aussi, comme on parlait de la douceur du personnage. En fait, c'est que je trouve que au début du film, on s'attache beaucoup à lui. Enfin, presque dès le début, en fait, on est presque charmé par ce côté un peu en dehors, totalement déphasé. Une scène de karaoké que je trouve très drôle, moi. Enfin, en fait, il est enfin, tout le temps perdu, il sait pas trop ce qu'il fait là, il connaît que des morceaux folk de berger.
Une couleur traditionnelle, ouais.
Oui, une fois traditionnelle. En fait, je trouve justement qu'au fur et à mesure du film, il y a ce côté d'attachement au personnage qui disparaît de plus en plus au fur et à mesure que lui change, parce qu'il change dans le film. Mais je trouve que ça, c'est très bien fichu aussi dans ce côté, que plus le temps passe, en fait, plus le personnage est rendu de moins en moins touchant et de moins en moins attachant. Et enfin, en tant que spectateur, j'ai été aussi de plus, enfin, plus le film a avancé, plus je me suis en fait détaché du film, comme lui, je pense, se détache de pas de lui-même, mais se détache de son monde.
Bah si, ouais, il se détache de lui-même parce qu'il s'est en fait, il s'efface totalement et il rentre dans le moule et après on le reconnaît plus
En même temps,
finalement.
il se rend compte aussi de l'inanité que peut avoir sa vie. Il interroge, ça commence par un discours de propagande de Mao, qui interroge effectivement le sens de sa vie et il se demande si il est quelqu'un de bon en gardant des moutons parce que ça profite à la société. Et finalement, son parcours lui permet aussi de voir qu'il est aussi dans une sorte de propagande. Le policier, au début, le voit réciter, se manifeste avec, voilà, avec admiration, et à la fin du film, il appelle tous ses collègues pour montrer un peu la bête de foire qui sort de sa montagne et qui connaît Mao. Lui, il est plus capable de le faire, mais ça montre aussi bien que voilà, c'est plus non plus juste le simplet, le béné de la montagne qui est montré en exemple.
Oui, il est complètement
Le
désabusé à la
personnage
fin de toute façon.
a aussi évolué
Bah, il
par
passe
rapport
du
à ça.
Rain Man au début, c'est ouais, c'est Rain Man au début quoi. Il est un peu,
Oui, au côté.
on croit que c'est un autiste au début quoi. Il a ce petit
À
côté.
côté, ouais. Je me suis demandé d'ailleurs s'il avait presque ce côté, comment dire, parce qu'il pose des questions qui finalement sont très naïves,
C'est ça.
mais très, qui touchent juste aussi. S'il avait un côté Socrate qui fait
Oui.
justement
Ouais.
semblant de poser des questions naïves pour déstabiliser, mais en fait non,
Non, non, il
c'est un
est, c'est
côté
vraiment.
idiot dans le sens
Voilà.
personnage
C'est
de
Candide, quoi.
Dostoïevski, quoi. Candide, effectivement, qui arrive de manière très naturelle et il perd cette innocence. Donc c'est vrai qu'on perd aussi en attache parce que bah, c'est plus facile de s'attacher à un personnage comme ça, très pur, très innocent, mais en même temps, il gagne aussi en épaisseur, je trouve. Nicolas?
Non, bah vous avez à peu près tout dit. Moi, j'ai quand même dans l'ensemble bien aimé le film, même si j'ai un petit bémol, c'est justement, c'est le film a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est très. Enfin, on s'attend exactement à ce qui va se passer du début à la fin. Et c'est vraiment dans le traitement du cinéaste que tout est l'intérêt, quoi, comme vous l'avez très bien expliqué, dans l'évolution du personnage et la manière de le montrer.
Oui, c'est ça pour moi, c'est ce que je disais par rapport à un Black Blood, par
Ouais.
exemple, où il n'y a pas du tout d'accroche narrative. Là, il y a une ligne narrative très simple, très épurée, et qui justement sert de support vraiment au vrai contenu du film, enfin au véritable aspect cinématographique du film.
Voilà, non, mais c'était moi j'ai beaucoup aimé. Au final, en y repensant, c'est que j'étais un petit peu mitigé en sortant. Puis, comme on en a discuté pas mal, c'est un film qui gagne en crédibilité avec du recul.
Bon, bah c'est génial, voilà un festival qui commence bien. On a dit du bien de Vesoul, on a dit du bien du festival, on a dit du bien d'un film en compétition. On ne peut pas nous accuser cette fois de ne dire que du mal des films. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas parlé du film d'ouverture, on a zappé comme ça, parce qu'il y a eu le temps des aveux de Régis Varnay en ouverture. Donc, on va peut-être pas en parler longuement. Voilà, Martine Terwan a expliqué que c'était un film qui était assez important dans son histoire. Personnel pour Régis Varnay, je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la parole sur le temps des aveux parce que j'ai une extinction de voix.
D'accord. Ouais, bah moi j'ai trouvé ça affligeant en fait, vraiment voilà, pour aller droit au but, j'ai trouvé ça affligeant parce que déjà Personnaz est complètement à l'ouest.
Sommet de son art.
Ouais,
Il est pas du tout à l'est.
il est
Il est à
oui,
l'ouest pour le
il
coup.
est quoi là, il est pas à l'est du tout, il est complètement à l'ouest et
Donc c'est Raphaël Personnaz,
bien sûr. Le
Alain
Alain Delon, ouais.
d'aujourd'hui.
Et on a du mal à. Et en plus, quoi, Varnier, avec, il a toujours cette manie, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une manie, mais il a cette volonté toujours de produire de la belle image. Il le fait beaucoup. Il aime les.
Il n'a pas changé de. On avait Le temps des aveux est sorti en salle, hein, mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout changé sa manière de montrer un pays exotique, donc
Indochine,
l'Indochine, le
ouais.
Cambodge. Le temps des aveux, c'est le Cambodge. Depuis, ouais, Indochine,
94, non?
Ah, c'est avant, hein, j'ai
Avant?
l'impression.
89?
Ouais, c'est 92 ans. Ouais.
Ah, voilà. Donc,
Donc
quoi.
oui, c'est vrai que ça, voilà, son, ça,
Voilà.
son
Et
langage
il ne
cinématographique a.
dépasse pas il ne
Et...
dépasse pas le stade de l'illustratif, de la carte postale, et en apportant en plus une vision assez colonialiste du conflit. Non, j'ai tout. Ouais,
On est du côté des Français pendant tout le film, quoi. C'est
voilà.
c'est un peu
Et on
ça.
sent pas. Et puis, c'est censé parler
On
de la.
devrait intervenir parce que c'est un conflit entre eux, mais il y a un peu qui se fait massacrer, mais c'est pour ça qu'on devrait intervenir et pas parce que voilà,
Et
l'histoire du film, c'est un
c'est censé parler de la captivité d'un homme et d'une amitié un peu ambiguë entre le tortionnaire et l'otage. Et pourtant, on ne ressent pas une seule seconde l'urgence, la peur, ou déjà par rapport à l'interprétation de personnage et du douchebag, là, du douche, je ne sais pas comment il s'appelle. Et en plus, par la mise en scène
Maître des
de.
forgerons.
Et en plus, Varnin en rajoute une couche. On n'arrive pas à croire en sa captivité et en l'amitié qui unit les deux hommes. On n'y croit pas une seconde, quoi.
Et surtout, en fait, je trouve que, du coup, en se concentrant là-dessus, ce qui en plus n'est pas très bien réussi, en fait, il oublie le reste du film. Parce que, à part ce personnage que joue par Personnaz, et Douche qui est un demi-personnage, parce
Ce
qu'
personnage.
il a deux traits de caractère et ça s'arrête là. Pardon, gars. En fait, tout le reste est totalement oublié. Il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de personnage, ou alors c'est juste un adjectif. Il y a la
Ce
femme.
sont des personnages fonction, en fait.
C'est des, ouais, bah, c'est des, ar puis des archétypes, quoi.
Et fonctionnaire aussi,
Parce
avec
que
le grand ambassadeur.
parce que Gourmet, c'est un super acteur, mais là,
Mais là,
mais là c'est une caricature, il n'en fait rien, quoi.
Et du coup, en fait, enfin, ça, je trouve que quand tu fais tout un film, que tu te bases sur une seule chose, au point d'en oublier le reste, et du coup, de rien faire du film à part cette chose, et qu'en plus cette chose est ratée, c'est pas un très bon film.
C'est un sujet très fort, quoi, en plus, quoi. C'est un truc.
Non, mais revoyez les petits pannes, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Voilà, mais d'autant que on marche de S21, la machine de guerre Khmer Rouge. Rick Pan a consacré un film entier à Douche, donc le tortionnaire de S21, qui est au centre du film de Régis Varnier, et qui est assez passionnant. C'est une série d'entretiens, justement, qu'il avait réalisé et qu'il a mis en exergue comme ça. Et c'était pour dire aussi que, effectivement, ça pouvait paraître bizarre parce que généralement on a plutôt l'habitude d'avoir un film inédit en ouverture, donc on était un petit peu déçus d'avoir ce Régis Varnier. Mais ça rentre complètement dans la ligne éditoriale du festival qui a toute une sélection tous les ans depuis 22 ans et qui insiste là-dessus, qui s'appelle Entre l'Orient et l'Occident et qui explique, qui choisit des films. Qui traite de ce passage culturel entre l'Asie et l'Europe, ou même les États-Unis. Donc je pense que c'était aussi pour mettre cet aspect très culturel et du festival en avant. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut être attiré par des découvertes plus originales que permet aussi le FICA de Vesoul, et pour ça, on le remercie. Notamment toute une section donc, qui a été concoctée notamment par Bastian Meresson et qui nous a conseillé, indiqué et pratiquement obligé d'aller voir les 12 films, je crois qu'il y en a peut-être un peu moins 10 ou 11 films sélectionnés dans la sélection qui s'appelle Les Maîtres oubliés du cinéma thaïlandais. Et effectivement, on a pu en voir 3 aujourd'hui. Donc l'idée de cette sélection, c'est de dire qu'avant les années 2000, fin des années 90,
90.
avec Happy Chapoumer, Cool, où il y a eu une petite nouvelle vague, ou en tout cas une naissance d'un certain cinéma d'auteur international, et peut-être avant, dans les années 90, un cinéma de genre
Pénétrer naturellement.
Qui s'est, oui, enfin, même, ça c'est entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre,
ah,
mais.
Voilà.
Et plus dans les années 2000, il y a eu beaucoup de films d'horreur,
Oui.
des films avec Tony Jaa, enfin pas mal de voilà, des films d'action aussi forcément en Thaïlande. Donc le fait qu'on connaissait très très mal tout ce qui s'était produit entre les années 40 et les années 80, la rétrospective essaye de balayer un peu cette période en sélectionnant 7 ou 8 cinéastes qui ont été censurés dans les périodes de répression et de dictature et qui là sont remis en avant. Donc les films ont été retrouvés. Le premier qu'on a vu, on va les prendre par chronologique aujourd'hui, c'est The King of the White Elephant. Donc non, ce n'est pas Tony Jaa d'ailleurs. Et en fait, c'est un film de Pridi Van Nooyong, mais
c'est pas celui qu'on a vu, c'est pas celui qu'on a vu en premier.
C'est pas celui qu'on a vu en premier, mais c'est le premier chronologiquement.
Ah, excuse-moi, non, non,
puisque
je suis fatigué.
C'est le premier film thaïlandais dont il reste une trace, en tout cas je ne sais pas s'il y en a eu avant, mais dont une copie existe encore. Il date de 1940 et en fait c'est un film de propagande. La Thaïlande allait être envahie par le Japon et comme dans beaucoup de pays à cette période-là, de certains artistes, donc là apparemment un producteur, donc ça, on a eu on a eu des explications en introduction, voulait faire ce film pour alerter le monde sur l'invasion imminente du Japon et les dangers de l'alliance entre l'Allemagne nazie et le Japon à cette époque. Donc le film a été tourné en anglais et c'est un témoignage intéressant, n'est-ce pas, Jérémy?
Oui, bah en fait, il y a un petit côté, il y a un petit côté, ouais, cinéma primitif, avec les jeux outrés, les raccords pas toujours bien, les raccords pas toujours bien faits, l'utilisation de la musique aussi qui est assez, c'est assez charmant, quoi. Il y a tout un petit côté assez désuet
Vous vous adressez à l'Occident, ils ont vraiment pris
c'est ça, oui,
enfin voilà,
des grands airs classiques,
grands airs classiques
voilà.
occidentaux. C'était
Voilà, et après, c'est pas très intéressant au niveau cinématographique, à part quelques plans qui sont assez beaux, notamment la charge des éléphants de face, qui est assez
Si vous
bien.
aimez les éléphants, par contre.
Ah, si vous aimez les éléphants, il n'y a pas de souci, on en voit plein. Mais voilà, après, c'est charmant, c'est assez intéressant historiquement, mais après, cinématographiquement, il n'y a pas beaucoup de cinéma là-dedans, quoi.
Oui, on est vraiment du cinéma populaire de l'époque, qui est justement, quand je parle de cinéma propagande, qui est quand même assez loin de ce que pouvaient faire les Anglais à la même époque, ou les Américains d'ailleurs, pour le coup, même dans des œuvres de propagande, parce que là, le message est très clair. Enfin, ça se passe au XVIe siècle. C'est un roi qui doit repousser l'invasion de son voisin, alors j'ai oublié le nom du voisin, mais qui a une consonance nippone assez,
Oui.
voilà, assez marquée. Donc il y a aucune, et qui s'est allié
C'est
avec un,
Onça.
c'est Onça, voilà, et qui s'est allié avec un grand maître, dangereux, pas
C'est
très
ça,
loin.
c'est ça.
Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas de discours caché. C'est un film de propagande. On est sur un film contre la guerre et pour arrêter les Japonais et alerter le monde. Après, il y a un petit côté effectivement désuet qui est assez charmant tout de même dans ce film. Et après les années 40, on va passer au deuxième film. En fait, on est passé déjà assez loin dans le temps, et avec un film qui n'avait absolument rien à voir, qui s'appelle En marge de la société, qui lui est de Manop Udomdej. Parce que si on était dans un cinéma, alors même si apparemment dans The King of White Elephant, il y a un discours critique par rapport à la société thaïlandaise, mais qui là reste un petit peu plus cryptique que le discours géopolitique du film, En marge de la société, lui, est vraiment un film extrêmement engagé qui date de 1981.
Nicolas,
Qui l'a vu?
moi
Qui
je l'ai pas vu, j'étais pas
était dans
trompé.
la salle, hein?
Elias.
Elias.
Alors oui, donc En marge de la société, c'est un film qui évoque en fait par deux points de vue différents donc les problèmes de classe et de pauvreté dans la Thaïlande des années 80. Donc d'un côté, on a dans un village du nord-est de la Thaïlande une espèce de coopérative, une sorte de confrérie qui se forme pour tenter de faire des champs, de faire des rizières en fait dans le village pour ne plus qu'ils dépendent de riches intermédiaires qui du coup les arnaquent un petit peu et se jouent un peu d'eux. L'autre côté, l'histoire d'un père de famille qui part à Bangkok pour tenter de faire un peu d'argent pour sa famille et qui va du coup découvrir les tracas de la vie ouvrière à Bangkok dans les années 80. Et donc c'est un film que je trouve qui marche plutôt bien. Après, c'est qu'il y a des. Et justement, je trouve ça assez étonnant du fait que, enfin, je n'ai jamais vu un film thaïlandais autre que Gorasita Cool. Du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et je trouve que, à plusieurs points de vue, c'est assez bien fichu. Il y a des bonnes idées de réalisation. Il y a vraiment des. Je cherche mes mots. Les thèmes sont bien traités, il y a des plans qui sont bien ficelés, il y a par exemple une séquence de montage parallèle entre un assassinat et une manifestation qui se termine par une purification par le feu d'une effigie
Dirigeant, ouais.
en papier.
Il brûle sa chemise.
Et il brûle sa chemise. Et donc ouais, donc je trouve que que je suis assez agréablement surpris donc du coup de la sélection sur les films thaïlandais, parce que je m'attendais à des choses qui c'est bien en dehors de ma zone de confort et que tu me mettrais vraiment dans un état où, qui plus où je me demande pourquoi je regarde ça que vraiment profiter du film. Et c'est un film qui, je trouve, très bien marché. Quelques problèmes de restauration dans la copie, notamment à la fin où il y a la stéréo qui s'est décollée, du coup on avait les voix en deux fois. Mais à part ça, c'était très
bien. Oui, c'est vrai qu'après, la qualité de conservation des films n'était pas forcément optimale.
Juste sur celui-là, j'ai trouvé. J'ai pas vu le White Elephant, mais sur ce.
La restauration, c'est une version restaurée, est vraiment, vraiment étonnant de voir un film.
Dans ce cas-là, c'est que Sima, alors.
Parce que, un peu juste de détails, mais.
Oui, mais c'est la meilleure resto de ce qu'on a vu sur les films. Et pourtant, c'est le plus ancien. Donc.
Et le troisième film qu'on a vu aujourd'hui de cette rétro, Les Maîtres Oubliés du cinéma thaïlandais, c'est Son of North East de Vichy Kunavudi. Mince, je l'ai presque bien dit. Donc voilà, qui date à peu près de la même période que le précédent, Marge de la Société, et qui présente d'ailleurs des similitudes thématiques assez frappantes.
Bah, c'est un peu les mêmes thèmes. Là, on parle d'un petit gang de, comme si un petit groupe de résistants. Non. Un petit groupe de résistants, avec gang, ouais, je parle anglais, quoi. Un petit groupe de résistants, un peu, voilà, c'est ça, de paysans qui ne quittent pas leur région du nord-est de la Thaïlande, qui est en pleine sécheresse. Et c'est un peu les seuls qui restent là, malgré tout. Et c'est un peu le même sujet, on parle de pauvreté, on parle de politique, on parle de lutte des classes, mais c'est pas du tout le même traitement. En marge de la société, c'était quelque chose de plus c'était un pamphlet, quoi. C'était une sorte de pamphlet politique très marqué, alors que dans celui-là c'est un film à multifacettes un peu. C'est un mélange de Ken Loach qui rencontrerait Max Pécasse un peu. Il y a un petit côté, très potache et en même temps.
Ouais, mais c'est ce qui fait le sel du film.
Avec le recul, je trouve ça assez pichou, quoi. Il y a une certaine naïveté.
C'est un film attachant, en fait, parce que. En fait, c'est un film qui dure quand même, plus de 2 heures, je crois, 2 heures, deux heures et quart. Et c'est un film qui n'a pas vraiment de trame narrative, quoi. C'est un film qui est vraiment collé à ces paysans qui endure un peu la sécheresse de leur région et qui quand même, c'est pas un film sombre, quoi. C'est des personnages qui gardent le sourire la plupart du temps. Il y a d'ailleurs un personnage de père qui rigole tout le temps, ça a bien fait marrer. Il a un sacré rire. Même si leurs conditions sont dures, on sent qu'il y a quand même une espèce de joie de vivre ensemble, ils ont tous leur histoire.
Évite par ce côté tout misérabilisme, voilà. Et montre une situation difficile, mais pas de manière désespérée. Ouais, c'est très coloré.
Alors que justement, dans l'autre film, tu as des côtés un peu désespérés à plusieurs moments. Tu te dis, merde, il va pas être très cool la Thaïlande dans les 80.
Là, ça se passe dans les années 30, je crois, donc c'est pas tout à fait la même période quand même.
Mais là, mais c'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, c'est assez frappant de voir. Un portrait de gens qui se laissent pas abattre, c'est assez touchant. C'est assez touchant parce que on les voit chanter pendant tout le film pour se donner du courage, mais en même temps il y a en dessous de ça il y a quand même un désespoir qui est montré
à plusieurs reprises.
C'est quand même un film désespéré, et en fait c'est l'histoire de gens qui essayent justement qui essayent de passer outre leur d'aller au-delà de leurs conditions, mais finalement ils n'y arrivent jamais. Et à la fin, quand les deux enfants parlent ensemble et qu'il lui dira tu verras, moi je vais aller étudier à Bangkok, on sait très bien qu'il n'y arrivera jamais et qu'il restera là, et que quand on le sait, quoi, je l'ai vu un peu. Et puis même quand sa mère lui dit quand il pleure, quand il part, quand il lui dit j'aimais bien cet endroit, j'avais pas envie de partir, et que la mère lui dit c'est pas la première fois que tu vas perdre des choses, et il y a ce côté très désespéré et très tu sortiras pas de là, quoi. Et
ouais, mais ça il appuie jamais dessus, c'est ça qui
rend non film, il appuie pas mais justement c'est là pendant tout le film, quoi.
C'est sous-jacent,
il y a des scènes où il y a surtout le personnage de la mère, justement, qui est souvent en larmes pour ses enfants, qui dit j'ai de la peine pour eux parce que en fait elle aimerait bien que ses enfants n'aient pas la vie qu'elle a eue, mais elle n'y arrivera pas. Et pourtant, après, l'espoir est là parce qu'elle continue, voilà, elle refait.
Je sais pas, parce que effectivement, j'aurais tendance à penser à la même chose que toi, mais je sais pas si c'est notre regard sur ce qu'on sait aussi de l'évolution de la
Oui.
société taille de la période du film jusqu'à ensuite, qui nous fait dire que les
Oui, non, mais je pense que
personnages
c'est
n'ont
une
pas forcément
interprétation, ouais, c'est une interprétation de ma part,
voilà,
mais
d'espoir, alors que le film les présente justement d'une manière assez fière, assez digne
Il
d'être
reste
de
digne,
cette
mais
région.
il y a quand même tous les problèmes qui sont exposés, les problèmes raciaux, les problèmes avec les Vietnamiens, les
Oui,
Chinois,
les Chinois.
les problèmes, voilà, le traitement réservé aux femmes,
Et disons qu'il y a toujours une espèce de ressort, c'est jamais, ouais, ça tombe jamais comme dans le désespoir, parce qu'il y a toujours un ressort comique un peu qui vient intervenir un moment pour alléger un peu l'ensemble, et du
Oui.
coup c'est ce qui rend tout, pareil,
Mais
ce
c'est
qui
ce
rend
qui
le
fait aussi
film,
perdre
voilà.
un peu de la force au propos,
Ouais,
mais
mais c'est pas, enfin, ça cherche pas à être un film fort, voilà, c'est
bah
juste un
si je
film
pense que si
pas
justement.
forcément cool.
Je pense que c'est en fait c'est une manière détourner un peu la censure ou pour faire quelque chose de plus commercial, comme disait Bastien en ouverture. Il a fait un film commercial, donc c'est de l'humour typique dans
Qui
un
fait
film
marrer les gens
commercial.
là-bas.
Donc
Ouais, mais ici aussi, je pense que ça.
Ça
Enfin,
marchait, le coup du dentier,
dans
ça marchait.
les années 70-80, on est pas entre les gendarmes.
Ben voilà, moi
Ça,
je parlais avec Elias de À nous les petites anglaises, il y a un
ouais.
petit un peu ce côté-là. Donc
Et Nihil en Angleterre, c'était pareil. Enfin,
voilà.
je pense que cet humour, il a.
Cet humour, il est universel, mais c'est ce qui a permis, je pense, pour le réalisateur de faire un film comme ça, quoi, de parler
Et
de
d'ailleurs,
ces
pour le
sujets-là.
coup, le réalisateur de En marge de la société dont on parlait juste avant a disparu de l'industrie cinématographique thaï après ce film et s'est fait complètement censurer. J'ai pas l'impression que le réalisateur de Son of North-East ait eu les mêmes problèmes justement
Bah,
parce qu'il y a cette lente hommage.
quand on voit l'état de la copie, je
Ouais,
pense
c'est sûr, ouais.
que voilà.
Alors on va revenir vers un cinéma qui est plus connu en présentant une autre sélection du Fikan Vesoul de cette année. Qui est un nouveau chapitre de cette année France-Corée à travers des films adaptés de romans. Donc c'est littérature et cinéma coréen. On a vu à nous quatre trois films aujourd'hui de cette sélection, dont le premier pourrait être Untold Scandal de Lee Jae-wong. Qui a vu Untold
C'est moi.
Scandal? C'est Nicolas Toussaint, non?
Ouais, j'étais tout seul ce matin pour le voir. Et du coup, bon bah en gros, c'est pour être rapide, c'est une adaptation des Liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot, de
De la
Laclos,
clo.
oui, et avec son nom qui je ne me retiens jamais d'ailleurs. Et donc voilà, c'est en fait que l'intérêt du film, en fait, c'est transposer l'intrigue dans la Corée
C'est en
du.
quelle année, par contre?
Le film,
Ouais, le
il date
film.
de 2003.
2003.
Et donc l'intérêt du film, c'est transporter l'intrigue originale dans la Corée du XVIIIe siècle, à la fin de la dynastie Joseon. Et voilà, donc si vous avez vu le film de Stephen Frears, le film coréen n'aura pas grand intérêt parce que c'est un peu, il reprend un peu tous les codes du film, en moins bien. Mais il est quand même agréable parce que ça a forcément la transposition en Corée, avec les costumes, la manière de jouer différente des personnages, des acteurs et des personnages qui ont une manière d'évoluer assez différente aussi. Donc voilà, c'est pas un film sur lequel il y a grand chose à dire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de cinéma, surtout de la belle image, comme aime bien dire Jérémy, avec des costumes réussis, une certaine tension érotique plutôt bien amenée, et puis voilà quoi. Pas grand chose à dire sur le film.
Deuxième film de cette sélection, qu'on a vu aujourd'hui, c'était Le Rêve de Bae Chung-ho. Est-ce que ça t'a fait rêver, Elias?
Non. Bah, comment dire? Je pense en fait que bah, j'avais en fait oublié quasiment que ce film existait, rien qu'à la sortie de la séance. En soi, enfin d'ailleurs, en fait, je trouve que d'ailleurs le film lui-même oublie qu'il existe à la fin du film parce qu'on se rend compte, enfin, je vais le dire parce que je pense pas que beaucoup de gens le voient, mais quand un film s'appelle Le Rêve et qu'à la fin on te dit bon, en fait c'était un rêve, déjà je trouve que ça enlève beaucoup de crédibilité au film quand tout, en fait, tout ce qui se passe dans le film est
Alors,
simplement
au moins
annulé.
on t'a pas menti, t'as pas compris, c'est honest title, quoi.
En fait, du coup, tout ce qu'on dit dans le film et tout le message, qui est certes extrêmement naïf, qui en gros, le message, c'est que si tu fais un truc méchant, bah, tu vas mourir malade et ta femme va être lépreuse.
C'est pas faux.
Ce qui est en gros le message du film. Et en fait, que du coup, tout ce message, à la fin, on l'enlève en disant, bah non, en fait, c'est bon, c'était un rêve. Ça fait du film qui était déjà assez faiblard.
Alors, quelque chose. Pas vu, mais est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il y a... il y a moyen de trouver soi-même son propre destin et de ne pas justement entrer dans cette catégorie-là moralisatrice.
Non.
Enfin, bah non, c'est juste non, en fait
concrètement, c'est juste un moine qui en fait tombe amoureux, enfin, plutôt fou de désir pour une demoiselle
qui vient dans leur temple, un moment bouddhiste.
Et en fait, va voir Bouddha et qui fait Bouddha, s'il te plaît, pardonne-moi, mais je vais faire une connerie en gros.
Voilà.
Et après, donc, il la viole, et après, il part avec elle dans la ville. Il la marie, ce qu'on pensait, il la marie force, on pourrait dire.
Ouais.
Après, il va tuer des gens pour cacher ce qu'il a fait au fur et à mesure, et il va tomber de plus en plus dans la
dépression. Il va continuer de la violer, il va la faire prostituer. Enfin, voilà. Donc, tous les trucs bien crado, bien sympa. Je suis super fan.
Et à la fin, en fait, Bouddha, en gros, c'était qu'une vision en vrai qu'il lui a montré pour lui dire ne fais pas ça, reste pur et simple, sinon tu vas mourir de la lèpre.
Voilà, donc il la laisse partir. Voilà, merci, au revoir.
Et c'était voilà, c'était comme ça.
Voilà, bon, bah on va finir sur. Si vous ne l'avez pas vu, il date de 90, mais là, vous savez tout, donc de toute façon, vous ne le verrez pas. On va aussi parler d'un film, moi, ça m'a fait plaisir de le voir sur grand écran, c'était My Sassy Girl, donc, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, qui est de Kwak Jae Wong. J'ai oublié de quelle année il
2001.
Date. C'est 2001. Ouais, 2001, voilà, qui était un peu le renouveau, voire l'explosion en France d'ailleurs, c'est avec Eon Corée, la comédie romantique.
Ça a eu un gros succès en France aussi. Enfin, en tout cas.
Je crois qu'il y a, alors je me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'il y a eu une sortie DTV qui avait plutôt bien marché. C'était un peu après la vague sortie celle, mais en tout cas en vidéo, ouais, ça avait bien cartonné.
Voilà.
Tu veux parler de Maxime Pierre, on en dit deux mots quand même.
Non, voilà, bon, vous connaissez tous le film. Diana June est toujours aussi sublime sur grand écran. Là, j'ai pas grand chose à dire du film non plus, quoi. C'est une comédie romantique au final classique, mais qui se repose surtout sur ces personnages qui sortent un peu des personnages ordinaires des comédies classiques, quoi. Donc voilà.
Moi, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Alors ça, c'est assez choquant parce que ça reste très très prude, hein, et on a limite l'impression de lire les premiers chapitres d'un shoujo encore. Voilà, donc ça reprend bien les codes. Le film est plutôt, par rapport à ce qui se fait actuellement en Corée, tient encore assez la route moralement par rapport à ce qu'il nous dit de la société coréenne, l'inversion des genres masculin-féminin dans la relation de force du couple est plutôt bien vue et fonctionne toujours. Donc, et esthétiquement surtout, on n'avait pas encore cet aspect très très drama qu'on peut avoir maintenant, voire très formaté d'ailleurs qu'il peut y avoir dans les comédies romantiques coréennes. Donc c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'était un peu mieux avant quand même. Romantique. Hein. Il y avait rajouté un truc sur My Sassy Girl ou non?
Bah, il y a un vrai sens du gag en fait, il y a un vrai sens burlesque. Ouais.
Elle est burlesque, c'est un personnage burlesque. En fait.
Non, mais même quoi, le duo fonctionne super bien. Ça,
et puis lui, il a une tronche assez, assez drôle. Et rien que tu vois sa tronche, ça te fait rire. Donc.
Visuellement, il y a quelque chose de burlesque qui fonctionne pendant pratiquement tout le film, pendant les deux tiers du film. Après, je suis un peu moins fan de la deuxième partie du film.
La partie plus dramatique.
La partie plus dramatique, ouais. J'aime bien la première partie du film où on t'introduit des personnages assez très manga, quoi, c'est un très bon moment, voilà. Ça a pas vieilli, ça a pas, c'est bien.
On espère que demain sera une aussi bonne journée aujourd'hui, et pour le coup on va se quitter comme d'habitude avec nos attentes. Je vais commencer par la mienne pendant que on fait passer le programme pour que vous puissiez choisir vos attentes. Moi, c'est le film d'Im Sang-soo. J'allais dire Aung San-soo, mais il n'est pas là cette année. L'interview sera pour une autre fois. Mais surtout, en fait, puisque ça sera l'occasion, alors je ne sais pas, on dira en direct si l'interview qu'on va réaliser sera demain ou après-demain avec Im Sang-soo. qui est cette année présidente du jury international, qui s'est vu remettre un cycle d'or. Et même si son dernier film, Intimité de mise, est une énorme bouse et que ses précédents étaient plutôt sympas, mais pas aussi bien que ses premiers, ça reste un cinéaste qui est assez important, enfin qui est très important même dans la nouvelle vague coréenne de la fin des années 90, début des années 2000. Et en plus, il a grave la classe. Voilà, je suis très content de pouvoir l'interviewer. Alors, ton attente demain, Nicolas ?
Oh là là, je sais pas en fait, parce que c'est le jour où j'ai eu du mal à choisir mes films. C'était, en vrai, c'était pareil, c'était un peu Ibi Sangsu, mais sinon, bah, Another Way, le film en compète qui passe le soir.
Ouais, film coréen, donc ouais. On a déjà sur le tableau des étoiles de David, d'Amandine.
Parce qu'il est passé au Black Movie.
Parce qu'il est passé au Black Movie et qu'ils ont trouvé ça assez mauvais.
Ouais, bon. C'est de la curiosité, quoi.
Donc peut-être qu'on pourra les contredire demain. Jérémy ?
Bah, moi, j'ai hâte encore d'explorer le cinéma thaïlandais, en fait. Le focus a bien commencé, donc j'ai hâte de voir la suite.
Mmh. Donc t'as hâte de te lever à 9h pour aller voir Country Hotel demain.
Ouais.
Elias.
Alors moi, enfin, il y a un film. Enfin, c'est vrai que demain, comme Nicolas, c'est un peu la journée où j'ai du mal à trouver des films. Autant dimanche, il y a beaucoup de films qui me tentent.
Le jour où on part, quoi.
Enfin, le jour où on part. Autant c'est pareil samedi, autant demain, voilà. Bah moi en fait ce que j'ai le plus enfin il y a deux films que par contre que j'ai un peu envie de voir quand même. Le premier c'est Une Chinoise, qui est un film qui passe dans la sélection sur Rien Occident, que je suis le seul à aller voir.
Ouais, moi j'ai vu Le Godard, ça me suffit. C'est La Chinoise
qui est sorti en 2009, et en fait je connais pas grand chose sur le film, mais la photo est très jolie, voilà. Et le deuxième, en fait, je suis très content de voir sur grand écran Deux Sœurs de Kim Ji-woon.
Ah bah oui,
à la,
c'est vrai.
À la séance du soir.
De 22h.
À la séance de 10h30, donc je suis assez content de revoir ce film que j'ai vu il y a déjà quelques années. Donc de le revoir avec un nouvel œil et de revoir sur grand écran.
C'est ça ma véritable attente.
Voir s'il est aussi bien, qu'il est dans aussi de souvenirs.
Bon bah rendez-vous demain pour parler de Deux Sœurs autour d'une heure du matin alors. C'est une Vesul Space Cowboys.
Salut.
Salut.